Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, j'ai tourné un sacré moment pour aller définir un axe un petit peu à ce que je voulais apporter comme éclairage sur les énergies là, de la nouvelle lune éclipsée qui s'avance pour le 14 octobre prochain. Et puis en fait, la dynamique énergétique des astres serait vraiment pas loin d'être un puissant fond en termes de compréhension, d'implication, de résonance, d'axe de matérialisation. C'est vraiment très très intense en termes énergétiques et il y a vraiment 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 beaucoup d'axes d'exploration à poser en fait pour comprendre un peu ce qui peut se jouer. Alors du coup j'hésitais, je me disais bon, est-ce que je fais genre un énorme podcast mais qui va durer du coup très longtemps parce que je vais essayer de balayer un maximum de choses, ou est-ce que je sélectionne un axe et puis dans les temps qui suivent après je parlerai d'un autre axe. Donc j'ai opté pour la deuxième session, donc la deuxième option pardon. Donc ce n'est pas une anomalie si voilà, il y aura des podcasts qui seront dans le temps toujours référencés à cette éclipse. Parce que de toute façon, on va rester sur la gamme de fond qui me semble tellement riche à explorer, qui est la dynamique en fait de l'axe karmique, hein, l'axe nodal, posé en bélier et en balance, qui vient être en fait, mais vraiment, vraiment, super actif, super parlant, super visible et super palpable. Donc on va regarder en fait un axe d'expression 3D de choses qui peuvent se passer du coup dans cette éclipse, des questions qu'on est amené éventuellement à se poser et des constats qu'on est éventuellement porté à faire. Alors de quoi on va parler quand on parle de l'axe Bélier-Balance et de, du coup tout ce qui soulève comme question sur l'établissement d'une relation, qu'est-ce que c'est en fait être en relation avec quelqu'un, c'est quoi un couple, c'est quoi mon concept du couple, c'est quoi ma vision harmonieuse de la relation one-to-one avec un autre être humain en face de moi. Qu'est-ce que c'est, en fait, pour moi, l'expression de ça? Qu'est-ce que ça génère comme état d'être intérieur chez moi? Question centrale posée en parallèle de l'existence singulière du jeu incarné par le bélier, c'est-à-dire où est-ce que je porte ma singularité, mon individualité, mon leadership, mon expression individuelle de moi-même, et comment finalement j'arrive à organiser mon énergie en étant dans un espace où je respecte le leadership présent en moi et dans le même temps j'évolue dans une dynamique de fondation d'un couple ou d'un duo, d'expression d'un couple ou d'un duo, d'expression comme appartenant hein, à un couple ou à un duo, harmonieuse et équilibrée. Bon, alors toutes les questions là, c'est plein spot, plein spot, plein spot. Et je remarque au gré de toutes mes rencontres ces dernières semaines que j'entends beaucoup de fois des gens, et c'était notamment des femmes, m'exprimer la chose suivante. J'en peux plus dans mon rôle familial ou dans mon rôle au sein du couple. J'en peux plus. J'ai une charge mentale de dingue. Si je lui rappelle pas son rendez-vous chez le dentiste, ça passe à la trappe. Je compense les carences de tout le monde. J'en peux plus. La charge mentale, penser à tout. J'ai pas une minute pour penser à moi, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu, mais je ne sais pas combien de fois, quoi. Et qui est le reflet en fait hein, d'un vécu particulier dans cette dynamique familiale et notamment de couple, parce que c'est souvent l'autre adulte au sein de la famille qui est pointé du doigt, c'est-à-dire le deuxième du couple, qui récupère en fait la péjoration, le côté péjoratif, je ne sais pas si ça se dit péjoration, de l'information de la charge mentale. Ben voilà, je porte sa charge mentale à lui. Voilà, je garde cet exemple-là parce que c'est comme ça que ça s'est exprimé à moi le plus souvent là, ces dernières semaines. Et en fait, ça m'a évoqué une question, qui est la question en fait du fondement des relations, comment les relations s'organisent, pourquoi elles durent, parce que si ça fait 15 ans que le discours est le même, où est en fait la contrepartie qui fait en sorte que la relation continue à durer? Parce que rester dans un espace de vécu de couple insatisfaisant, en tout cas exprimé comme étant insatisfaisant, pendant très longtemps, il faut bien comprendre que il y a quand même, même si c'est pas satisfaisant comme ça à vue de nez, il y a quand même quelque chose qui vient nourrir la relation pour qu'elle tienne et pour qu'elle perdure. Donc parfois ça peut être intéressant d'identifier ce que c'est. Et dans ces exemples-là, de voilà, la charge mentale est trop lourde, etc. Moi, je me pose la question de est-ce qu'il n'y a pas, du coup, de l'autre côté du couple, une idée qui serait identique à celle de porter la charge émotionnelle? Et est-ce qu'il n'y aurait pas, dans ces expressions-là, en regardant le truc avec intégrité, des transferts de charge, c'est-à-dire il me donne sa charge mentale, donc c'est ce dont je vais me plaindre, mais je lui donne ma charge émotionnelle. Est-ce que ça peut se raisonner? Est-ce que ça peut s'entendre? Évidemment, hein, l'exemple est vrai aussi. Hein, ça peut être il me donne sa charge émotionnelle et je lui donne ma charge mentale. Et alors évidemment, c'est pas fait de façon consciente. Alors, si on arrive à voir à peu près correctement ce que c'est que une charge mentale, ce que ça demande en fait comme sollicitation énergétique, parfois la charge émotionnelle c'est un peu plus subtil. Alors, comment savoir si on délègue un peu trop, voire beaucoup trop, notre charge émotionnelle auprès de l'autre? Eh bien, il y a un petit jeu de questions en fait qu'on peut se poser pour savoir si dans notre équilibre individuel, on est assez OK, ou est-ce que finalement la charge émotionnelle, elle est bien, bien pesante pour la personne qui est en face de moi. C'est un, est-ce que j'associe en fait l'idée du couple à quelque chose qui est super imbriqué en fait avec ma notion de bien-être? Est-ce que je me sens mal si je ne suis pas en couple? Et est-ce que, du coup, quand je suis en couple, j'ai l'impression de me sentir mieux? Ça, première chose. Parce que, du coup, ça voudrait sous-tendre que notre bien-être émotionnel est dépendant, peut-être non pas de la personne qui est en face de nous, mais juste du fait de pouvoir être associé à quelqu'un. Donc ça peut s'explorer sur ben voilà, justement l'image du couple, c'est quoi le concept d'un couple pour moi, c'est quoi l'histoire du couple dans la famille, quels sont les exemples de couples que j'ai autour de moi, quelle aurait été ou quelle serait la dynamique de couple idéale pour moi, enfin bref, tout ça. Les autres questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on estime que l'autre est responsable de nos joies comme de nos frustrations? Est-ce que il a cette capacité peut-être à venir récupérer du coup nos émotions surnuméraires, que ce soit des émotions de tristesse, les coups de blues, etc., dans lesquels on a besoin éventuellement de beaucoup de soutien, comme des émotions plus feu, hein, comme des colères plus ou moins justifiées en face à des insatisfactions et des frustrations. Est-ce que ça fait partie des schémas dans lesquels on se retrouve quand on se trouve très équipés de la charge mentale de l'autre. Est-ce que nous, on a ce genre d'axe de comportement éventuellement en termes de transfert de charge émotionnelle? Quelle est finalement notre disposition d'attente concernant cette relation à l'autre et du coup vis-à-vis de l'autre, qui nous met en posture de potentiellement laisser beaucoup de charges émotionnelles sur les épaules de l'autre, c'est-à-dire lui demander de recevoir en fait notre émotion, lui demander de faire face à notre émotion, de répondre positivement à nos émotions, alors que en définitive, c'est à nous-mêmes de répondre positivement à nos émotions quand on les sent arriver, et c'est tout le boulot de gestion émotionnelle qui s'apprend et qui s'acquiert au fur et à mesure et dans l'expérience. Donc j'ai trouvé que cet axe était intéressant à soulever parce que la dynamique relationnelle fait qu'on est en fait sur des échos de réponses. C'est-à-dire que on a des zones de besoin, bien souvent, et l'autre, quand on s'associe à quelqu'un d'autre, vient répondre de manière consciente ou inconsciente à ses besoins. Et dans ce qu'on identifie en fait comme surcharge d'un côté ou déséquilibre, rétribution, contribution d'un autre côté, enfin, on a plein d'indices comme ça qui nous font dire que parfois, énergétiquement, au sens large, la relation elle est injuste, où on peut avoir le sentiment de trop porter, etc., etc., etc. De prendre en considération aussi que peut-être que ça apparaît trop lourd tout d'un coup, parce qu'on sait aussi peut-être parfois donner les moyens d'évoluer aussi sur la dynamique de la gestion émotionnelle. Et que du coup, les besoins en soutien, en transfert de charge émotionnelle vers l'autre ont un petit peu diminué aussi. Et que du coup, la balance est très déséquilibrée avec le besoin en charge mentale qui reste toujours très fortement présent. Et inversement, je ne vais pas trop prendre la logique, mais on peut se sentir tout d'un coup débordé par la charge émotionnelle de l'autre, tout ce que l'autre attend de nous, parce que dans le même temps, en fait, on s'est trouvé à reprendre aussi de l'autonomie sur le plan de la charge mentale qu'on avait tendance à transférer. Donc ça peut être des pistes aussi d'observation intéressantes, parce que ça peut ouvrir à des dialogues constructifs en ce qui concerne l'arrangement de situations qui peuvent être des situations hautement conflictuelles au sein des couples, ou de pouvoir se positionner de manière plus claire et d'avoir une expression, une communication plus claire par rapport à ses besoins et les chemins finalement d'autonomie vers lequel chacun tend dans sa voie d'évolution. Pourquoi je souligne ça? Parce que avec le nœud nord en bélier de l'axe nodal en ce moment, on est vraiment en train d'être boosté à aller travailler ce sentiment d'indépendance et de leadership. C'est vraiment ça qui est mis en avant. Et le leadership sans autonomie, c'est pas tout à fait ça, hein. Ça ressemble, ça a le parfum, mais c'est pas tout à fait ça. Le vrai leadership, c'est la capacité à être en appui sur soi et à l'intérieur de soi pour aller extraire finalement les capacités d'engagement dans une action, pour aller trouver vraiment cette assise intérieure qui permette de se poser très sereinement dans une affirmation saine de soi, quelles que soient en fait les situations. Donc on a ce besoin d'autonomie si on est dans des zones de dépendance, et tu le vois venir tu me vois venir avec mes gros sabots, mais en sous-jacent, c'est le type de relation qui effectivement répond à des statuts dits de codépendance. Et finalement, tout ce tempo des éclipses, là, est en train de nous permettre de mettre en lumière nos espaces de codépendance, nos espaces de blessures sur lesquels on s'accroche, ce qu'on attend, ce qu'on espère, qu'on est de l'autre, qu'on n'est pas capable de se donner à soi. C'est-à-dire, si je parle de transfert de charge émotionnelle, mais si je remets mes émotions dans les mains de la personne qui vit avec moi, Moi, où est-ce que je fais le job, en fait, de considération saine de mes émotions et de les prises en compte? Et de la même façon, si je remets une partie de ma charge mentale dans les mains de la personne en face, où est-ce que je suis en train d'acquérir une autonomie et une indépendance et une capacité à évoluer en exprimant justement ces dynamiques de leadership intérieur, de raisonner aussi dans mon jeu, dans qui je suis moi, et pas uniquement par le fait du fonctionnement en couple ou en duo. Donc super intéressant. Néanmoins, on n'est pas forcément sur un top confort, hein, parce que les expressions de codépendance, elles sont multiples, hein. Ça, c'est une forme d'expression de la codépendance, mais il y en a plein. Plus ou moins marquées, plus ou moins dures. Mais la question de qu'est-ce que ça serait, en fait, comment j'aimerais pouvoir être au sein de mon couple, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir vivre, en fait, au sein de mon couple, qu'est-ce que je souhaiterais toucher du doigt comme type de partage, type de connexion, type de moments passés ensemble, qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce que j'aurais envie de partager avec quelqu'un, à quel endroit j'aimerais pouvoir contribuer en conscience, et puis à quel endroit j'aimerais aussi pouvoir recevoir. C'est toutes ces questions-là, en fait, derrière. Donc, ça passe aussi par une redéfinition du jeu, du bélier, de savoir aussi mieux concevoir, mieux conceptualiser, finalement, là où nous nous honorons au singulier le mieux, finalement. Dans quel type d'espace nous sommes le mieux? Dans quel type de posture nous sommes le mieux? Donc voilà, tout ceci est un vaste chantier karmique qui vient toucher aussi à toute une forme de mythologie autour du thème de l'amour, autour du thème de ce que l'on raconte, de la manière dont s'associent les couples, de la manière aussi dont on vient désacraliser ce qui est du parfum des connexions subtiles qui font que deux êtres finissent par être dans la proximité l'un de l'autre. Ça pose la question aussi d'une authenticité, l'authenticité du bélier, justement, au sein de son couple, et jusqu'à quel point il vient chercher la valeur flamme, finalement, dans ce qu'il est en train de faire comme expérience relationnelle. Qu'est-ce qui met en mouvement la création de l'énergie de ce couple et de cette relation? Qu'est-ce qui tient, en fait? Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi ça marche? Et comment ça pourrait peut-être encore mieux marcher? Et comment ça pourrait ne plus du tout marcher aussi? Donc voilà, c'est un petit peu ça, l'idée, c'est d'aller se poser ces questions-là et sa liste de souhaits. Alors bon, c'est pas la lettre au Père Noël, hein. Parce que ce que ça veut dire quand même, et on fait le point rapidement, il n'est pas question, pour que le chemin soit correctement évolutif, il n'est pas question d'aller jeter sa pierre, en fait, dans le jardin de l'autre avec grande facilité. C'est pas tout à fait ça. C'est surtout question de se dire, mais à quel moment ce truc commence à me gêner éventuellement, ou à quel moment je repose un équilibre et depuis je sens que ça va mieux, et qu'est-ce que je suis venue activer en moi pour modifier mon vécu, en fait, du couple, si j'ai eu ces sensations de surcharge à plusieurs reprises, et voilà, est-ce que mes actions ont marché, est-ce que j'ai une autre manière d'aborder la question, est-ce que il y a une autre approche à proposer, est-ce qu'il y a aussi parfois des décisions à prendre. Tout ceci va être très singulier, très intense éventuellement. Alors ça veut pas dire que nous arrivons dans un espace où fleurissent les ruptures pour autant, hein. On n'est pas sur des instantanéités de fonctionnement d'éclipse, mais il y a des questions de repositionnement au sein des couples qui vont venir beaucoup s'interroger. Et comme on a la lune noire qui vient de rentrer juste dans le signe de la Vierge, qui est quand même le signe de la Vierge, le grand archétype de la planification dans la tenue de la maison, de l'organisation, de l'agenda, anticipation, voilà, qui sont quand même des archétypes de gestion de maison. Quand même, hein. On va le dire un petit peu, eh bien, ça pourrait, l'expression de cette charge mentale trop forte pourrait se faire entendre de plus en plus autour de cette éclipse, parce que du coup, les échos karmiques sont énormes. Donc, on pose la question de la lune noire en vierge et la considération de cette lune noire en vierge au sein du couple. Donc, potentiellement, beaucoup de colère de la part des archétypes féminins en occupation et du foyer. Donc, on va avoir ça. Ça ne veut pas dire que les femmes ne travaillent pas, mais c'est que, de manière plutôt classique, elles ont des responsabilités en termes de la gestion du foyer qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et je n'ai pas dit « et moins lourdes, et plus lourdes ». Je ne dis pas les mêmes. Et ça n'a rien à voir. Voilà, voilà. Évidemment, comme je te le disais en introduction, je ne t'ai pas tout dit. On reparlera de tout ça bientôt. Je t'invite à aller jeter un coup d'œil sur le programme des veillées de Samhain, dont tu trouveras l'accès au contenu complet en passant sur le lien de ma bio Instagram. Voilà, renseigne-toi, viens regarder, fais-moi signe si tu veux venir avec nous, qu'on se parle un petit peu par téléphone avant, que je vois si ça correspond bien à ce que à ce qui pourrait correspondre à toi en ce moment comme besoin. Et puis ça va être chouette. Je t'embrasse bien fort.